Accès libre avec Luc Fortin.
Et monsieur, que je suis content d'être là. Mais il y a quelqu'un qui a oublié de dire à Mère Nature qu'on était rendu en juin, par exemple. Il a fallu que je retourne mettre un petit coup de vent ce matin. Jean-Sébastien, La Liberté, bonjour!
Bonjour. Hey Luc, on se compare, on se console. En Abitibi, notamment à Rouyn-Noranda, il y avait un voile de neige ce matin sur le gazon. Ça fait que finalement, le petit 15 degrés, c'est pas aussi peu que ça.
Oui, non. Puis de toute façon, il pleut pas. Contrairement à ce que certains ont vécu hier. D'ailleurs, on y reviendra parce que un qui a géré la pluie, c'est Dominique Tremblay qui va nous parler d'activité physique. Il est allé à la course des pompiers. Alors, il va nous le vraiment offre autant aux personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. L'accessibilité universelle comme étant une philosophie au cœur de ses priorités. Il y a Michel Bénard, ou Bédard, devrais-je dire, animateur décapé, qui a servi comme porte-parole, si on veut. C'est que le RTC à Québec a fait deux journées portes ouvertes. Les employés ont posé des questions aux clients handicapés le samedi, puis le public dimanche. Quelle belle initiative! Et, le financement. C'est souvent le nerf de la guerre, c'est au cœur des problèmes. On va commencer l'émission avec ça. Mais avant, il faut que je t'explique, Jean-Sébastien, pourquoi je suis si heureux. Premièrement, 3 juin, le métro Baudry est réouvert.
J'en ai entendu parler. J'avais perdu espoir. Je pensais que c'était la prochaine décennie.
Alors, le métro Baudry, qui est la station, en tout cas pour moi, qui me donne accès, ce qui fait que, oui, l'intersection Amherst-Sherbrooke est encore périlleuse à traverser. Ils n'ont toujours pas installé le feu sonore que j'ai demandé au début de l'automne dernier. Mais je ne suis pas obligé de traverser l'intersection pour retourner. Alors, je peux prendre l'autobus et le métro pour retourner. C'est donc 50% de transport adapté de moins. Ça, c'est une bien bonne nouvelle. Mm-hmm. Et l'autre, j'ai découvert qu'il y a des ateliers pour apprendre comment maximiser son usage du iPhone lorsque tu as un handicap visuel. Du côté d'INCA, les mardis entre 13 et 15 heures. Demain, c'est l'application Ami Télé. Il va y avoir Easy Reader la semaine prochaine. Blind Square. Cherchez-moi pas le mardi. Je serai là. Et si jamais ça vous intéresse, ça se fait également à distance. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, vous vous inscrivez et ça se fait, là, comme je le disais, à distance. Puis les gens de Montréal sont invités à être sur place. Donc, yeah.
Moi, je dis, Luc, qu'on devrait prendre une nouvelle habitude de commencer l'émission comme ça avec des bonnes nouvelles. Il me semble qu'on parle l'émission du bon pied comme ça.
Ben, quand il y en a,
c'est bon. Oui, non, ben, c'est sûr qu'on est tributaire de ça.
C'est ça, exactement. D'ailleurs, on va voir avec Christiane si C81, qui a été voté mercredi dernier, la loi sur l'accessibilité universelle, est une bonne nouvelle ou de la poudre aux yeux. Mais, je le disais, hein, plusieurs organismes sont au boulot cette semaine pour faire connaître leurs activités dans le cadre de la Semaine québécoise de la personne handicapée, qui veulent peut-être même faire connaître les besoins, les réalisations de leurs membres, ont aussi, je suis certain, des ennuis parce qu'il faut la faire vivre, cet organisme-là, ou le faire vivre, devrais-je dire. Et l'argent, c'est jamais simple. Alors, on voulait causer philanthropie cette semaine. Et pour ce faire, on a demandé à Danielle Poulain, qui est vice-présidente de l'Association des professionnels de gestion philanthropique de se faire, parce que, je ne sais pas si vous avez vu ça, Daniel, tout en vous saluant, il y avait récemment un bon article dans le journal Les Affaires qui faisait état des nouvelles tendances, ou du moins comment se portait la philanthropie en 2019. D'abord, comment allez-vous?
Je vais très bien. Merci beaucoup de me recevoir, M. Fortin. C'est un plaisir d'être avec vous.
Ben mon Dieu, vous avez un très, très beau sourire. Vous reviendrez. Mais avant même de terminer, les nouvelles tendances, est-ce qu'il y en a ou c'est pas mal du pareil au même?
Ben, écoutez, je vous dirais que le monde a tellement changé au cours des 10 dernières années que c'est évident qu'on est au-delà des nouvelles tendances. Les façons de faire sont complètement transformées par les nouvelles technologies principalement, les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Ça a un impact en philanthropie comme dans tous les secteurs d'activité.
Mais en même temps, je lisais, je ne sais plus c'est quel organisme, mais ils proposent comme événement de levée de fonds d'aller faire du ski de fond dans le lac Saint-Jean. Mm-hmm. 3 jours, mais il faut non seulement payer 250 $ pour y aller, mais assurer également une collecte de fonds de 1 500 $ pour avoir le droit de participer. ça commence à être sévère comme demande.
Ben c'est sévère. Écoutez, c'est volontaire d'abord. Hein. Il faut avoir envie de le faire pour aller le faire. Donc, dans ce contexte-là, à partir du moment où la philanthropie a cette magnifique caractéristique d'être tout à fait volontaire, ben mon Dieu, non. Je vous dirais que si les gens sont prêts à le faire, tant mieux pour eux. 250 $ pour aller faire 3 jours de ski, ça va si on y va seul, si c'est pas organisé. Mais si on fait partie d'un groupe puis qu'on souhaite qu'une organisation ait de l'argent en bout de piste, hein, que ce soit pas juste l'activité, ben il faut mettre l'épaule à la roue.
Mais c'est ça, là, c'est rendu 1750 finalement qu'on doit trouver, là.
Oui, mais pour le plaisir, non pas de faire du ski de fond pendant 3 jours, ou en tout cas pas seulement ça, mais pour le plaisir de contribuer à une cause qui nous tient à cœur. C'est ça l'objectif.
Est-ce que le simple don, c'est carrément dépassé?
Ben, écoutez, c'est certainement pas dépassé, mais les personnes plus jeunes, disons-le comme ça, qu'on appelle les millénarios ou les X ou les Y, en tout cas, c'est clair qu'ils s'asseoiront pas à une table pour faire un chèque et vous le mettre par la poste. Ça arrive plus, ces choses-là, et pour plein de raisons. D'abord, je pense que les jeunes savent pas c'est quoi un chèque.
Jean-Sébastien, si on met cette phrase-là dans la publicité, c'est trop bon.
mais ensuite, je vous dirais que les jeunes, contrairement aux boomers dont je suis, ont envie de plus que du don. Ouais. Ils ont envie de faire partie, ils ont envie de contribuer, ils ont envie d'être dans un mouvement, puis toute boomer que je suis, je vous dirais, ils ont envie d'avoir de la substance à mettre sur leurs réseaux sociaux. Mmh. Puis faire un don, c'est pas très sexy sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors que, évidemment, aller faire 3 jours de ski et de raquettes, ben là, on commence à jaser.
En même temps, l'implication est plus grande et... Bon, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit la Croix-Rouge, il y a comme des organismes où, en tout cas, moi je sais que Médecins sans frontières, ils font du porte-à-porte dans mon coin. Est-ce que ça, c'est encore efficace? Parce que évidemment, on met de l'avant la mission, l'œuvre, ou ça prend un événement?
Écoutez, ce n'est jamais l'un ou l'autre, je vous dirais. C'est toujours un et l'autre. Puis, s'il y avait une recette miracle, toutes les organisations l'auraient trouvée et toutes les organisations la déploieraient. Je pense qu'il faut rester ancré dans sa mission. Il faut parler de soi. Hein. Il faut que ça fasse du sens, la collecte de fonds. Mais il faut aussi que ce soit une offre assez variée. On parle dans l'article des affaires que vous mentionniez de frais d'administration de 25-30% parfois plus. Ben, si c'est la seule chose qu'on fait, une activité comme ce défi de traverser, par exemple, évidemment, on peut se poser des questions, mais généralement, ces défis-là, ce sont des portes d'entrée pour qu'on obtienne les coordonnées de gens qui apprécient notre cause. Oui. Puis à partir de ces coordonnées-là, ben là, on peut commencer à entreprendre une vraie relation par le biais des courriels, d'infolettres, et là, faire de la sollicitation, par exemple, pour des dons mensuels. Donc, ces activités-là, quand ce sont des portes d'entrée qui nous permettent d'approfondir une relation, ben ils sont non seulement essentiels, ils sont extrêmement rentables.
Je vous balance 2 questions qui ont lien justement avec les pourcentages. D'abord, bon, est-ce que le 25-30% dont il était question dans l'article, à savoir les frais d'administration, c'est acceptable en général par le donateur? Et est-ce qu'on détermine ou comment déterminer le coût d'entrée pour que le donateur puisse trouver ça acceptable, que ce soit un spectacle ou faire du ski de fond?
Je commencerai par votre 2e question.
Allez-y.
À partir du moment où on est un peu dans une relation de consommation, quand le donateur achète un spectacle, qu'il achète un repas, qu'il achète une activité, ben il n'y a qu'une façon de déterminer la juste valeur, c'est que le donateur accepte de le donner. Donc, à partir du moment où on a autour de notre organisme des donateurs en nombre suffisant qui acceptent de payer le prix demandé pour une activité, on peut juger que c'est le juste prix. Pour s'aider...
Mais ça, il faut peut-être le faire une fois ou deux avant pour se casser la gueule, puis après ça, leur demander c'était trop passé ou on peut le savoir dès le premier?
Pour moi, la bonne façon de le faire, c'est d'impliquer nos clients potentiels, entre guillemets, dans nos comités d'organisation. Dans les bonnes pratiques en philanthropie, c'est pas une permanence qui fait ces choses toute seule. C'est pas un bureau d'employés qui organise seul ces activités-là. Dans les bonnes pratiques, on s'entoure de gens, d'abord, qui connaissent l'expérience. Hein, organiser une activité de vélo quand on fait pas soi-même du vélo, c'est pas garant de beaucoup de succès. Là. Alors, il faut autour de soi plein de bénévoles qui sont en fait les premiers clients de l'activité, qui connaissent ça, qui ont envie de le vivre et qui ont, eux, autour d'eux, plein de gens qui sont prêts à payer. Et donc, ils le savent, le montant qu'ils sont prêts à payer puis le montant que leurs amis sont prêts à payer pour contribuer. Donc, à ce niveau-là, c'est ça la clé du succès. C'est de s'entourer de bénévoles qui ont, eux, cette envie de contribuer, de participer à l'activité puis qui connaissent ça.
Et est-ce que vraiment... les gens se méfient de mon don va-t-il aller dans l'administration uniquement? Est-ce qu'il y a une frontière à ne pas franchir dans le pourcentage?
Ben, il y en a une, je vous dirais, presque légale. Hein? L'Agence du revenu du Canada, qui est l'espèce de grand Manitou qui surveille le secteur d'activité, demande qu'à peu près 35% maximum des sommes soient dédiées à la gestion et à l'administration et à la collecte de fonds.
Je savais pas qu'il y avait une loi, c'est une bonne idée, ça.
Okay. Monsieur Fortin, disons-le, là.
Oui.
On est dans un monde où pour vous vendre un hamburger, on peut payer des millions de dollars de publicité, avoir des hauts salariés qui gagnent des centaines de milliers de dollars et qui sont les meilleurs dans leur domaine. En philanthropie, notre objectif, c'est de transformer le monde pour qu'il soit meilleur. Je pense qu'il y a une modification de la pensée depuis quelques années. Les gens se disent, mon Dieu, il faut investir pour mettre les meilleures ressources humaines et d'expertise au service de cette idée qu'on peut changer le monde pour qu'il soit meilleur.
Ça va pour l'organisme, mais est-ce que le client, lui, c'est-à-dire le donateur escompté, est-ce que lui est d'accord? C'est là la question que je me pose. Elle est vice-présidente de l'Association des professionnels en gestion philanthropique, Danielle Poulain. Moi, j'ai Pizza, qui, lorsque je fais ma commande, me demande si je veux donner à Opération Enfant Soleil. Comment arrive-t-on à avoir un partenariat où on n'est pas obligé d'accepter de créer des événements, où c'est bien malaisant pour celui qui se fait venir de la malbouffe de dire non? C'est fabuleux, ça, comme idée.
Bien, c'est un des moyens, effectivement. Je vous dirais que le seul enjeu, pour moi, dans ce genre de campagne-là, qui est extrêmement rentable, là, et puis c'est un des moyens à notre portée pour faire de l'argent, mais un des enjeux, c'est que Opération Enfant Soleil n'obtient pas votre nom et votre numéro de téléphone.
Ah.
Donc, on reste dans le 2$ ponctuel.
Mmh.
Hein? L'objectif, là, c'est de trouver des gens qui aiment notre cause, qui y adhèrent, puis qui veulent... qui mordent dans l'idée de transformation du monde qu'on projette. Donc, des adhérents, hein, c'est vraiment pour ça que des activités comme celles dont on parlait sont utiles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut approfondir la relation qu'on a avec les gens, ils mettent l'épaule à la roue, ils ont l'impression de participer, de contribuer, et puis après... Très souvent, si les organisations font bien leur travail, ils vont développer de très belles relations à plus long terme avec un certain nombre de leurs participants.
Ouais.
Pas avec tous. Hein. Certains vont participer au défi, puis vont après, on dit qu'ils sont volatiles, qu'ils sont volages, ils vont aller dans d'autres causes, ils vont aller dans d'autres activités. Mais un certain nombre de nos participants vont triper, vont demeurer proches, ils vont se mettre à faire du bénévolat, ils vont prendre un don mensuel, ils vont peut-être faire partie d'un comité, puis éventuellement faire même partie du conseil d'administration.
Ouais,
c'est ça l'objectif.
Je vois l'importance de ramasser des courriels. C'est vraiment, c'est fascinant, vraiment, c'est fascinant. Ça va au-delà du montant global à la fin de la campagne. Merci beaucoup, Danielle Poulain. On garde votre numéro de téléphone.
Ah, M. Fortin, ça a été un plaisir, puis bon succès pour votre émission de cet après-midi.
Ben c'est gentil. Oui, c'est vrai. Un qui était sous la pluie, mais qui était hier à la course des pompiers. On va lui demander si c'était peut-être justement un événement de levée de fonds, entre autres choses. Dominique Tremblay, tout de suite après. Qu'est-ce qu'on a, Jean-Sébastien? Je sais que c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est mardi passé que je l'ai choisi.
Alors, cette semaine, votre animateur a choisi la formation montréalaise Men I Trust avec la pièce Norton Commander All We Need. Et ça sonne comme ceci.
Quand même audacieuse comme production, réalisation. On aime ou on n'aime pas, ça c'est certain. C'est notre chroninique, Dominique Tremblay, bonjour.
Bonjour Luc, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, merci. Hey Dominique, toi qui étais à la course des pompiers hier, est-ce que c'était un événement de levée de fonds?
En fait, oui, c'était une activité organisée par les pompiers qui permettait de ramasser des fonds.
T'es pas sérieux, la course des pompiers était organisée par les pompiers?
Ben oui, toi, c'est bizarre, hein? Il y avait plein de canons de pompiers partout. Mon petit garçon de 3 ans a bien apprécié l'expérience.
Qui a 4 ans aujourd'hui.
Oui, que c'est sa fête aujourd'hui, 4 ans. Il était très fier de montrer qu'il avait maintenant 4 doigts.
Ouhou, bonne fête, Léobert.
C'est cela. Et donc, c'était une. Ça permettait de ramasser des fonds pour la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.
OK.
Ça existe depuis 2012, cette course-là. Et l'année dernière, il avait ramassé plus de 38 000 $ pour la fondation. La course avait lieu au Centropolis, le départ et l'arrivée. Et ça se déroulait dans les rues de Laval. Il y avait possibilité de faire un marathon, donc 42,2 km. 21,1 km dans le demi-marathon, le 10 km, le 5 km, le 2 km et un simple petit kilomètre.
Toi, tu l'as fait avec ta famille?
C'est ça, avec ma conjointe qui est aussi avec en fauteuil roulant, ma fille qui a 8 ans et mon petit garçon de 4 ans. Et on s'est bien amusé sous la pluie faire une course de 1 km. C'était très, 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 très le fun, même malgré la pluie, là. Moi qui ai fait beaucoup de courses étant plus jeune, ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de souvenirs. Puis je pense que ça va être une expérience à refaire à chaque année.
Oui, puis souvent, de toute façon, les parents disent aux enfants de ne pas sortir quand il pleut. Alors là, ça permettait de défier un peu l'ordonnance. Ça t'a donné envie de nous parler d'activité physique?
Oui, parce que mais il y a quand même près de 5000 personnes qui participent aux diverses courses. Ce qui est assez important. Et puis, de visu, j'ai pas vu beaucoup de personnes à mobilité réduite participer aux activités. C'est pas nécessairement que le comité organisateur faisait pas des efforts. Par exemple, à la fin du... pour s'inscrire, là, la fin d'inscription, ça te dit si vous avez besoin d'aide ou que vous avez des besoins particuliers.
Oh, wow.
Une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter, on va faire notre possible.
Super.
Pour que votre expérience soit le plus positive.
Yeah.
Je ne sais pas combien de personnes ont utilisé ce service. je vais être honnête avec toi, même moi-même, même ma famille, on ne l'a pas utilisé, donc c'est un peu difficile. Mais il y avait pas, en fait, il n'y avait pas de catégorie pour les personnes en fauteuil roulant ou les personnes qui voudraient, qui ont des distances visuelles comme toi, Luc, qui voudraient faire la course. Ouais. Puis ça me désole un peu que ça devient de plus en plus difficile de trouver des activités pour les personnes handicapées pour demeurer être actifs, même si notre but dans la vie, ce n'est pas nécessairement de participer aux Jeux paralympiques. Tout ce qu'on veut, c'est être bougé, être en forme. On nous dit que c'est bon pour la santé d'être actif, mais les activités semblent... Il n'y en a pas des tonnes, mais...
Mais un de mes problèmes, moi, Dominique, c'est d'avoir... J'ai souvent besoin... En tout cas, si je fais des activités en individuel, j'ai besoin d'un bénévole. Et j'ai pas... Oui. Tu sais, toi, hier, t'as pu courir avec ta famille. Moi, il y aurait... À moins de le faire avec un ami, là, parce que c'est dimanche. Mais si je veux aller faire de la course mardi après-midi, mes chums, ils travaillent. Alors là, je dois courir avec quelqu'un que je connais pas. Bon, c'est sûr, là, la personne pourrait me dire « Ah oui, mais voilà l'occasion de découvrir et de connaître quelqu'un qui va peut-être ouvrir tes horizons, Luc. » Oui, mais j'ai-tu envie, moi, de courir avec quelqu'un que je connais pas?
Ça peut être tannant, parce que, tu sais, si il arrive quelque chose pour une raison ou pour une autre, je sais que moi, par exemple, je t'ai guidé, je t'ai fait rentrer dans un poteau la semaine dernière en descendant dans un match de soccer. Mm-hmm. Je me sentais bien mal, puis on se connaît depuis des années. J'imagine la personne qui te connaît pas, qui vient juste te rencontrer pour faire la course, comment il se sentirait.
Ben, faut dire que je t'ai engueulé comme du poisson pourri devant tout le monde, là. Fait que ça n'a pas dû aider.
C'est correct, je le méritais. Ouais. Mais c'est difficile. Puis, si j'ai fait un petit peu de recherche ce matin, puis ça fait partie des quatre barrières qui empêchent les personnes handicapées à faire de l'activité, c'est qu'on a besoin d'un système d'organisation alentour de nous pour nous permettre de faire une activité sportive. Mm-hmm. Par exemple, si moi, je veux jouer au tennis, ça me prend quelqu'un nécessairement avec qui jouer, mais ça prend aussi quelqu'un qui connaît mes limitations, qui est capable de jouer assez pour, tu sais, moi qui manque les coups et qui n'est pas capable de se déplacer, il faut qu'il me facilite la vie pour pas que j'aille me déplacer la grandeur du terrain de tennis.
Ouais.
Donc, ça prend un certain niveau de connaissance de tennis, puis c'est assez difficile à trouver.
Puis les bon, autres, c'est une barrière. Je veux dire, ça prend un ballon de goalball, ça prend peut-être des officiels qui connaissent les règlements, ça prend... Mais qu'est-ce qu'on fait? On va vers les organismes?
Bien, ça, c'est une chose. Il y a quand même des programmes qui s'offrent, par exemple, sur l'île de Montréal ou les alentours. Le site web d'Altergo offre un répertoire d'organismes qui offre des activités physiques pour les personnes handicapées. Mm-hmm. Je vais t'en nommer quelques-unes. Il y a le Viomax,
ouais,
qui ont un centre de conditionnement physique. Ils ont une piscine adaptée. Il y a le Centre d'interaction à la vie active qui offre du basketball, du boccia. L'Association québécoise des sports pour aveugles, que tu connais bien, mm-hmm, qui offre du goalball ou encore d'autres activités ou d'autres sports qui ont, par exemple, essayer le soccer à 5. Il y a l'Association de voile adaptée. On en parle, c'est de la voile. L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Donc, il y a quand même quelques organismes qui permettent aux personnes handicapées adultes de faire de l'activité.
Les gens de la région ici sont assez bien desservis. C'est quand tu sors des régions comme Montréal et Québec... Où là, bon, t'as peut-être un organisme, bon, t'as la fondation en Estrie, c'est pas grand-chose pour les non-voyants en Estrie. Là, c'est là où c'est.
Non,
c'est quand
ça.
Tu sors de la région de Montréal ou de Québec, c'est difficile. C'est probablement vrai partout au Canada.
C'est vrai partout au Canada. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai toujours été quelqu'un de très sportif. Je voulais jouer au hockey Cossum. J'avais 14 ans, 15 ans. C'est moi qui ai parti l'activité avec quelques personnes que je connaissais. On s'est ramassé une douzaine de personnes, puis on s'est loin au gymnase, puis on a joué au hockey de ça. Mais ça prend quelqu'un qui est débrouillard.
Ouais.
pour être capable de faire ça.
C'est
pas donné à tout le monde.
Ouais.
Mais il y a des associations régionales de loisirs pour personnes handicapées un peu partout à travers le Québec qui peuvent aider. Et il y a... le Canada s'est doté depuis 2006 d'une politique du sport pour les personnes handicapées. Donc, il y a des programmes qui existent qui permettent du financement ou de l'organisation un peu partout là, qui peuvent aider, comme l'Association québécoise Parasports Québec, qui peuvent aider, ou encore l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux, qui peuvent aider à faire des activités à l'extérieur de Montréal ou de Québec.
Parce que Parasports Québec peut être subventionné par le provincial et le fédéral?
Bien, il y a des activités qui s'appellent comme Bridging the Gap qui existent partout au Canada, qui font des activités de démonstration puis qui prêtent du matériel. Je sais que pendant quelques années, ils se sont déplacés un peu partout au Québec pour faire des démos. Donc, c'est possible de faire quelque chose. Puis, il y a des prêts de matériel qui peuvent se faire par Altergo ou le défi sportif. Puis, donc, si on veut vraiment faire de l'activité, il y a moyen, mais il faut chercher, puis c'est souvent...
Oui, puis il faut être à l'affût. Il y a les next-gen, des fois, là, qui se promènent un peu pour essayer de trouver des athlètes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver des gens qui pourraient aimer le paralympisme, puis s'adonner au sport. Mais en même temps, peut-être que nous, on va découvrir des sports. Faut rester à l'affût, ça, c'est certain. Dominique, il me reste 15 secondes, alors je te salue.
Salut, à la prochaine.
Et nous, après la pause, on va regarder un peu une revue de presse de ce qui a été dit ou pas dit à l'égard de ce vote autour de C81 la semaine dernière.
Écoutez, Accès libre.
Salut Christiane Campagnat, édimestre et recherchiste de Accès libre.
Salut Luc Fortin, animateur de Accès libre.
Vous êtes également lectrice. En tout cas, dans ce cas-ci. Et si parfois on va se promener à gauche et à droite, je voulais vraiment aujourd'hui qu'on essaie de voir qu'est-ce qui s'est dit à propos de l'adoption, pas encore formelle, là, on attend l'assentiment royal des sénateurs. Mais pas facile de trouver du contenu sur C81.
Je ne sais pas si les journalistes attendent l'assentiment royal des sénateurs ou le communiqué qui suivra avec, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, il y a un communiqué sur un programme, il n'y a pas eu de communiqué sur la loi en tant que telle. Mm. C'est peut-être une des raisons. Mais le seul grand média qui a couvert l'adoption de la loi, c'est CTV News, dans ce que j'ai trouvé.
Okay.
Et il y a aussi eu une entrevue à l'émission du matin avec Ben Maroney, avec la ministre.
OK.
Mais c'est tout. Sinon, j'ai vu quelque chose dans un journal d'Hamilton, un blog spécialisé dans la politique a aussi mentionné l'adoption, mais toujours en anglais.
Oui, j'ai vu AMI Audio aussi ont couvert la nouvelle. Mais est-ce que, en plus de... T'as pu voir peut-être, je sais pas moi, par les pages Facebook ou des réactions de la part des organismes ou...
C'est vers ça que je me suis tournée, voyant l'absence de réaction dans les médias. Alors, j'ai fait le tour des organismes et même de certaines personnes là, que je connais avec qui j'ai mis Facebook. Je vous en parlerai parce que leur publication était publique.
Oui.
Là où il y a le plus de réactions, c'est dans les groupes qui représentent les personnes sourdes ou malentendantes, puisqu'il y a eu reconnaissance. Quoique, en tout cas, d'après ce que j'ai lu, on parlait pas partout de reconnaissance officielle. On disait, sur le site de la KEPA, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, on cite quelque chose disant « L'American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer. Un premier pas, espérons-le, vers une reconnaissance.
»
Des langues comme langue d'enseignement, meilleur accès à l'emploi, etc. Fait qu'on parle pas de langue officielle, mais on parle quand même d'une reconnaissance. C'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y a eu le plus de réactions. Véro Leduc a écrit « Alléluia! Le Canada a enfin reconnu les langues des signes autochtones québécoises et américaines. Je lève mon chapeau à chacune des personnes qui ont contribué à cette victoire. » Il y a aussi beaucoup de réactions et de publications auxquelles moi, je n'ai pas eu accès parce qu'elles étaient seulement en langue des signes. Donc, j'imagine que c'était très positif.
Mais c'est intéressant, donc, la nuance entre reconnaissance et adoption comme langue officielle.
Il faudrait fouiller là, pour approfondir cet aspect-là.
Moi, je voulais vraiment hier aller, là, il y avait à la Maison des Sourds un événement soulignant cette reconnaissance-là et mes amis interprètes n'y allaient pas, puis évidemment, je ne me voyais pas aller là seul sans amis interprètes.
Oui, je comprends tout à fait. Ben, c'est une autre publication de la KEPA concernait cet événement. Aujourd'hui, nous avons célébré en grand nombre la reconnaissance de nos langues des signes à la Maison des Sourds de Montréal. Les enfants de la KEPA ont interprété une jolie chanson en LSQ. Yep. Et en fait, j'ai découvert, je me suis en allée vers le site de la KEPA parce que la COFAN a partagé ce statut-là, mais c'est la seule chose qu'il y avait sur leur site. Je n'ai rien vu sur la page Facebook d'Exéco, sur la page Facebook de Kiroul. Il y avait quelque chose sur le site de Vie Autonome Montréal, une infographie que j'ai vue à quelques endroits sur la loi qui était partagée. Mais en fait, c'était un partage d'un autre organisme qui s'appelle Habilitas, qui est une fondation montréalaise. Et il y a peut-être cette tendance, on voit qu'il n'y a que des médias anglophones qui en ont parlé. Mm-hmm. Et peut-être, on dirait, comme une tendance où on en a moins entendu parler du côté francophone. Vie Autonome Montréal est un organisme quand même à fort penchant anglophone.
Difficile de savoir si c'est parce qu'on ne le savait pas ou parce que ça ne nous impressionne pas.
C'est ça qui est la question. Ouais. L'entrevue avec de CTV avec Carla Quattro a été partagée par le regroupement des organismes et personnes handicapées de Laval. Le CAPVIE a partagé la même infographie que Vie Autonome Montréal qui résume un peu la loi. C'est à peu près ça que j'ai trouvé là, pour... une réaction de Québec accessible, quand même.
Okay.
Ça y est, le projet de loi C-81, la loi canadienne sur l'accessibilité, a été adopté à l'unanimité au Parlement, partagé aussi par Marie-Ève Veilleux.
Mais pas de réaction. Juste nous dire que ça a été adopté. Ah, Marie-Ève aurait réagi?
Marie-Ève nous a fait un gros yes. Okay. Bravo à toutes les personnes qui ont participé à faire adopter cette loi. Bravo aux personnes sourdes qui ont pu faire reconnaître les
langues des signes québécoises. Marie-Ève qui est très impliquée là, dans les organismes. C'est ça. Une fille qui est traductrice aussi.
Oui, et on dit maintenant, on passe en mode mise en application et vigilance.
Oui, puis il y a tellement de mise en application, il y a tellement de au jugement de... Il y a plein de choses qui sont pas concrètes. Puis il n'y a pas de date, puis il n'y a pas de coercition précise, puis il n'y a pas de... on est très dans le bon souhait et dans le « on veut que » et... On va essayer de faire quelque chose.
Oui, on va fouiller ça.
Oui. Pauline Couture, bonjour.
Oui, bonjour, M. Fortin.
On me dit que vous êtes directrice générale du regroupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud.
Oui, c'est exact, oui.
Une des raisons pourquoi je voulais parler à quelqu'un de l'autre bord du fleuve, c'est qu'en lien avec la SQPH, un communiqué de la ville de Longueuil annonce plusieurs activités, entre autres jeudi, en lien avec la semaine, mais je cite « À Longueuil, l'accessibilité universelle est au cœur de nos propriétés. » Elle fait partie intégrante de nos actions et de nos décisions. Le bilan 2018 et plan d'action est à venir en 2019 en matière d'accessibilité universelle confirme notre engagement à faire de notre ville un endroit toujours plus inclusif en offrant des services à toute la population sans exception. C'est-tu si hot que ça à Longueuil?
Je peux dire dans un premier temps qu'il est vrai que la ville de Longueuil, depuis quelques années, à l'intérieur du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, a réalisé réalisé certaines améliorations, mais c'est principalement au plan des adaptations puis des aménagements physiques. Vous savez, l'accessibilité universelle... c'est beaucoup plus inclusif. L'accessibilité... C'est parce qu'on mélange souvent l'adaptation à l'accessibilité universelle. L'adaptation, c'est vraiment organiser des rampes, mettre en place des moyens pour que certaines personnes handicapées soient en mobilité réduite, puissent se déplacer, puissent accéder. Tandis que l'accessibilité universelle, c'est beaucoup plus une approche inclusive comme telle. Fait que la ville de Longueuil, oui, a fait des adaptations, mais a adopté un principe d'accessibilité universelle. Mais on peut dire qu'on a une bonne collaboration avec la ville là-dessus.
Okay.
On fait des efforts, sauf que ce que je peux dire, c'est beaucoup en termes d'adaptation puis d'aménagement physique. L'accessibilité universelle, il y a des axes, il y a l'aménagement, l'urbanisme, l'information,
la communication,
les programmes, les services, la formation. Donc, on a mis beaucoup la majeure sur l'aspect architectural, là, mais en termes d'adaptation et non d'accessibilité universelle.
En général, est-ce que, bon, si Longueuil vous consulte les autres organismes, c'est-à-dire les autres municipalités du territoire que vous couvrez, est-ce que c'est une initiative, là aussi, qui est généralement suivie? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce qu'on vous demande de siéger autour d'une table?
Oui, absolument. Oui, il y a des municipalités qui ont plus de 15 000 habitants, ils ont l'obligation de présenter un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Sur la Rive-Sud, il y a 17 municipalités de plus de 15 000 habitants qui ont cette obligation-là. Alors, il y a des comités consultatifs qui sont mis en place par les municipalités et les organismes communautaires, on participe à ces comités consultatifs-là. Il y a des citoyens handicapés aussi, des municipalités qui participent, des élus. Donc, sur ces comités-là, on identifie les obstacles et on propose des solutions. La problématique, c'est que oui, il y a des obstacles qui sont identifiés, mais la décision finale appartient aux élus. Donc, les plans sont présentés aux élus et ils sont pas toujours adoptés dans leur intégralité. En fait, les raisons qu'on nous dit souvent, c'est au niveau financier, les ressources financières sont pas suffisantes pour ça. Sur les 17 municipalités sur lesquelles on participe, il y en a au moins 3 qui ont adopté une réelle politique d'accessibilité universelle. Donc, ça veut dire que tous les projets de développement vont être en fonction d'une accessibilité universelle, donc pour tous. Vraiment, c'est vraiment, ça s'adresse pas seulement aux personnes handicapées, ça s'adresse à tous les citoyens.
Quelle municipalité, Pauline?
Saint-Lambert, Saint-Constant et la ville de Varennes est en train on travaille actuellement avec la ville de Varennes pour l'adoption d'une politique d'accessibilité universelle qui devrait se faire à l'automne.
Mais les gens vont peut-être se poser la question à la maison, mais quelle est la différence entre un plan d'action et une politique d'accessibilité universelle, alors que même le plan d'action, en théorie, est supposé d'être proposé selon les barèmes d'accessibilité universelle?
En principe, oui, sauf que le plan d'action, dans le fond, c'est qu'on identifie les obstacles que les citoyens handicapés rencontrent dans leur municipalité. Donc, des obstacles en termes d'aménagement, comme je disais tantôt, d'urbanisme, d'information, communication, et tout ça. Donc, comment un citoyen puisse... Donc, souvent, ce qui se passe dans les plans d'action, avec le fonctionnement actuel, les installations au niveau architectural, souvent, ça va être... ça va être des propositions d'adaptation. Ouais. Donc, on va adapter une entrée, on va adapter une rampe, on va adapter, par exemple, au niveau de la communication, de l'information, on va adapter des documents et tout ça. Mais l'accessibilité universelle, elle va beaucoup plus loin. Mmh. Elle, c'est vraiment du développement durable. Donc, l'accessibilité universelle, c'est sûr que ça s'adresse beaucoup aux projets de développement d'une municipalité, par exemple, lors d'une construction, ou que ce soit au niveau de l'aménagement urbain, que ce soit au niveau des bâtiments. Et aussi, ce que nous, on demande beaucoup, puis c'est là où le bât blesse souvent, c'est tout l'accès à l'information.
Oui.
Par exemple, les sites web des municipalités, donc que ça puisse s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. L'accessibilité universelle, comme je disais, c'est pas juste relié aux personnes handicapées. C'est dans le fond, quand on adopte les principes d'accessibilité universelle, ben ça fait en sorte que toute la population en profite. Mm-hmm. Parce que les besoins des personnes handicapées sont révélateurs des besoins d'une population en général. On pense aux personnes âgées à mobilité réduite, qu'on pense par exemple au maman enceinte,
livreur et tout ça.
Donc, ou même aux personnes au niveau de la communication, le taux d'analphabétisation est très élevé au Québec.
Ouais.
Donc, si on donne de l'information en langage simplifié, c'est accessible pour tout le monde.
Le RTL, comment se débrouille-t-il, que ce soit les autobus à plancher bas, les rampes avant, les annonces des arrêts d'autobus, même les feux sonores, même si ce n'est pas le RTL? Disons, le déplacement, comment se débrouille-t-on?
Bon, ben, le réseau de transport de Longueuil, il y a un plan de développement pour rendre accessible là, en termes de transport collectif. Oui, ils ont une flotte, bon, elle n'est pas complétée, mais il y a un plan de développement sur quelques années. Actuellement, il y a des autobus à plancher abaissé, des autobus électriques. Il y a tout le transport adapté aussi. Et actuellement, avec la refonte de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, il y a eu un gros changement depuis 2017 au niveau du transport collectif sur la couronne nord, la couronne sud, puis l'île de Montréal. Donc, ils sont en transformation.
Est-ce qu'il y a des annonces vocales? Est-ce qu'on a des annonces vocaux dans les autobus?
C'est pas réalisé tout à fait encore. Ça s'en vient. C'est dans les plans. Des annonces vocales, les abribus aussi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, sauf que c'est en démarche.
Oui, oui. Puis, en terminant, les feux sonores, est-ce que ça bouge ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une population, bon, pour des raisons historico-géographiques, il y a quand même une population de personnes handicapées visuelles importante de ce côté-là. Est-ce que les feux sonores, ça...
Il y en a plusieurs installés à Longueuil, mais il en reste encore à venir. On invoque toujours la problématique des ressources financières, on tente d'agir avec la ville là, pour accélérer vraiment la pose de feux sonores.
Merci beaucoup.
Mais encore
Pauline.
Là, je pense que c'est nécessaire. Mais je voulais aussi, avant qu'on termine, si vous me le permettez, c'est comme vous disiez avec l'entrevue qui précède, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées cette semaine, du 1er au 7 juin. Nous, du regroupement, on a lancé une campagne de sensibilisation des commerces et des services de proximité accessibles à tous. C'est vraiment une campagne qui s'adresse aux commerçants de toute la rive sud de la Montérégie afin qu'ils rendent accessibles les services offerts à la population. Donc ça, on voulait souligner, nous. Donc au niveau de l'accessibilité des commerces et des services, si on parle de Longueuil, ben on aimerait bien... C'est sûr que c'est des milieux privés, des commerces privés, mais la municipalité a quand même... une responsabilité d'en faire la promotion.
Est-ce que la municipalité a des plans, des incitatifs financiers?
Non, malheureusement, pas à Longueuil. Par contre, je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. C'est la ville de Saint-Hyacinthe qui a, au cours de l'année, en tout cas, elle a un incitatif financier. Elle va rembourser un montant de 50 000 $ jusqu'à 50 000 $ les commerçants qui vont rendre accessible leur commerce.
Intéressant.
Aimerait bien que la ville de Longueuil puisse suivre ce modèle-là.
Assurément. Je suis obligé de vous laisser.
C'est pour ça qu'on fait une campagne là, pour rendre les services accessibles. On considère, nous, que c'est rentable pour les commerces, que les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap puissent aussi... avoir accès aux services de proximité.
Je vous souhaite une bonne semaine québécoise.
Je vous remercie beaucoup, M. Fortin.
Pauline Couture, aussi. Qui est directrice générale du regroupement des associations de personnes handicapées de la ville de la Rive-Sud Drive de Charlotte Cardin. Puis ensuite, on va justement parler de transport régulier avec Michel Bédard.
My lazy eyes home.
Au cas où je n'ai pas le temps à la fin de l'émission, vous dire tout de suite si vous êtes abonné au balado ou encore si vous allez écouter la version sur le site de Vues et Voix de l'émission. Donc, on va vous offrir en appendice un entretien que j'ai pu avoir un peu plus tôt l'automne dernier avec deux personnes qui représentaient la communauté sourde et qui souhaitaient avoir la reconnaissance de la LSQ. Et bon, c'est chose faite, alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas... vous offrir cela en rediffusion. Il est animateur des Capés du côté de CKIA. Michel Bédard, bonjour.
Salut, mon cher Luc.
Ça va bien?
Très bien, toi.
Ouais, merci beaucoup. Belle initiative que ce que proposait le RTC il y a, quoi, 8 jours environ, la dernière fin de semaine de mai. J'ai posé des questions à Montréal. Semble-t-il, du moins, que ce ne serait pas encore quelque chose qu'on a fait, à savoir des journées portes ouvertes, une journée pour les employés, le lendemain pour la clientèle. Et est-ce qu'il y avait juste les personnes handicapées ou plein de kiosques et plein de monde? Parce que toi, tu étais là.
Effectivement, j'y étais les 2 jours. Il y avait seulement que les personnes handicapées qui étaient représentées au niveau de la clientèle. Évidemment, il y avait des kiosques pour expliquer comment on répare un moteur, comment on répare une articulation d'autobus pour les autobus articulés. Il y avait des kiosques.
Quelle belle idée!
Aussi pour représenter le projet structurant qui s'en vient d'ici 2000, on ne sait pas quoi. Donc, il y avait des projets internes au RTC. Évidemment, l'accessibilité en fait partie, mais pour ce qui est de la clientèle, on était les seuls représentants donc de la clientèle.
Bon, qu'est-ce que les employés voulaient savoir?
En fait, ils voulaient savoir comment agir et comment nous, on percevait leurs agissements quant au déploiement de la rampe, à l'agenouillement aussi de l'autobus. Parce que, faut savoir, je ne sais pas pour Montréal, mais ici à Québec, c'est pas une culture qui est intégrée encore systématiquement des chauffeurs. Et on en a encore que ça dérange après 8 ans. Ça va faire 8 ans dans quelques jours que les bus sont accessibles en fauteuil roulant. Et il y a encore des chauffeurs qui ne veulent pas ou qui, en fait, qui font sentir que ça les dérange que d'avoir des gens en fauteuil roulant à l'intérieur. Donc, nous, on était là pour un peu démystifier ça, leur expliquer que le transport adapté, c'est bien beau, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Et les inconvénients du transport adapté peuvent être palliés par les autobus réguliers avec rampe avant, parce que nous, à Québec, on a décidé d'utiliser que les rampes avant, comparativement à vous, à Montréal,
ouais.
Autant avant que arrière ont été utilisés. Donc, c'était pour expliquer ça pour la première journée au niveau des chauffeurs.
Michel, faut-tu m'expliquer quelque chose avant d'arriver là, à la clientèle, générale? Lorsque, parfois, il m'arrive de prendre un minibus adapté et qu'il y a une personne en fauteuil roulant, le chauffeur ou la chauffeur vont attacher, ligoter le fauteuil pour pas qu'il bouge. Avec des ceintures, des straps, des... Mais ce n'est pas le cas dans l'autobus régulier. La personne entre, puis elle s'installe, puis c'est beaucoup plus rapide. Quelle est la différence?
Ben, en fait, c'est que pour ce qui est des autobus réguliers, c'est un espèce de coussin qui est derrière nous et on est tôt à la circulation. Ce qui fait que s'il y a un impact, ben on accote sur le coussin qui, lui, est vissé plafond plancher. Donc, il est au frame de l'autobus, dans le fond.
Ouais.
Ça fait quelque chose de beaucoup plus sécuritaire que juste des straps qui sont au plancher versus aussi une ceinture qui est accroché après les straps qui sont au plancher. Fait que si la strap au plancher, donc dans le transport adapté, débarque, ben la ceinture ne sert plus à rien.
Ouais.
Donc, on est systématiquement catapulté vers l'avant, puisque en plus, on est face à la circulation.
OK. Allons, dimanche, donc, le public était aussi invité à poser des questions à Michel Bédard et ses amis.
Oui, effectivement. Le dimanche, oui, les questions étaient d'ordre différent. C'était plus de savoir comment les gens, en tant qu'utilisateurs, doivent fonctionner. Parce que il y a des gens qui, en fait, à Québec, beaucoup s'agglutinent devant la porte et attendent que la porte ouvre. Et dès que la porte est ouverte, ils se garochent dans l'autobus.
Oui, la culture de la file n'est pas encore rendue à Québec.
Non, effectivement, ouais. Elle n'est jamais entre Montréal et Québec, quelque part, je ne sais pas où,
ouais.
Elle n'est jamais quelque part entre les deux, qui fait que ça s'agglutine et ça se garoche dans l'autobus. Donc, moi, il faut que j'essaie de me frayer un chemin. Puis si le chauffeur dit « attendez », qu'il ne se passe rien, le temps qu'il agenouille et qu'il déploie sa rampe, ben là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe.
Mm-hmm.
Et donc, systématiquement, ils ont le réflexe de monter à bord pour être sûr d'avoir leur place dans l'autobus. Donc, c'était de leur expliquer qu'il ne se passe rien au niveau de l'autobus. C'est parce qu'il se passe de quoi. Mais tu le vois juste pas. Tu ne le comprends pas.
Ouais.
Fait que, quand ton tour, si on dit « attends », ben, attends.
Mm-hmm.
Le chauffeur, il repartira pas. T'es là. Donc, c'est un peu ça qu'il fallait faire un peu, entre guillemets, comprendre à la population générale de comment ça fonctionne, le principe d'agenouillement et le principe de déploiement de la rampe et aussi le principe à l'intérieur parce que la logique veut qu'il faut être le moins de gens possible à l'intérieur du bus pour que moi ou d'autres on soit facilement capable de se rendre à l'endroit désigné de façon sécuritaire. S'il y a beaucoup de gens dans le bus, ça devient infernal. Ouais. Ne serait-ce que se faufiler à l'endroit, on est là, on tasse des gens, puis les gens ne comprennent pas que c'est là qu'il m'en va.
Mais là, ça veut dire quoi? Que les gens qui sont en avant descendent, que toi, tu entres et que les gens remontent?
Bien, des fois, si l'autobus est déjà plein,
ouais,
c'est ce qu'il faut faire.
Okay.
Mais c'est pour ça qu'on essaie de faire comprendre aux gens, attendez de monter, attendez qu'il y ait un moyen pour te rouler, électrique ou manuel, peu importe, attendez qu'il soit monté à l'intérieur pour que lui ou elle ait le plus d'espace possible.
Bien sûr.
Pour pouvoir manœuvrer de façon aisée. Parce que il y a beaucoup de gens, ça devient beaucoup plus long à monter. Donc, on retarde le chauffeur, on retarde tout le monde. Enfin, tout ça est un enchaînement de. Si tout le monde fait sa job comme il faut,
ben ouais,
autant le chauffeur que les usagers, ben tout le monde va trouver son compte, puis tout le monde va être content, puis il va y avoir une harmonie incroyable.
Est-ce que c'était la première fois que le réseau de transport de la capitale faisait des portes ouvertes comme ça?
C'était la deuxième fois, il l'avait fait, si ma mémoire est bonne, en 2015.
Okay. Puis les personnes handicapées avaient-elles été invitées?
Tout à fait.
Okay. Oui, c'est fabuleux.
La culture d'accessibilité est bien ancré au RTC et ils y pensent bien. Est-ce qu'ils le mettent en œuvre systématiquement? Non, mais au moins ils y pensent.
Michel, merci beaucoup. Puis on reste abonné au KP, puis on vous écoute tous les semaines.
Parfait, on se reparle.
Michel Bédard, donc animateur à CKIA. Michel, d'ailleurs, qui me disait, lorsqu'on a causé en fin de semaine, qu'il y a même les fameuses affiches là, où on sait quelle heure les autobus passent, bien apparemment que même les personnes aveugles peuvent entendre ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, si vous êtes balado ou sur le site web, c'est un petit entretien que j'ai eu l'automne dernier. Sinon, pour les autres, ce qui s'en vient, c'est de la musique. Puis on se retrouve lundi prochain. Donc, comme on le soulignait, c'est surtout la communauté sourde qui semble avoir été très, très heureuse de l'adoption de la loi C-81 sur l'accessibilité universelle au Canada. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas revenir sur cette quête de reconnaissance de la langue des signes, qu'elle soit American, québécoise, inuit ou indigène. Et l'automne dernier, on a eu l'occasion de s'entretenir avec deux personnes, interprétées par Joël Fortin, qui était là pour nous aider à connaître les deux gars en question, Darren et Martin. Et on a décidé, tiens, de vous offrir peut-être le deux tiers de cet entretien sur l'importance des langues signées. Autour de la table pour en parler, Darren D. Daz. J'oublie ton nom de famille, Saunders. Darren, salut, merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
Et Martin Boucher. Bon, Darren est doctorant en linguistique. Maurice, lui, travaille pour... c'est quoi? Also...
Pas Maurice.
Martin. Tu travailles
en
pour...
En fait, je suis très impliquée dans la communauté sourde en général au niveau canadien.
OK. Et tu travailles dans la vidéo également.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et c'est pas que Martin et Daz ont la même voix, c'est celle de Joël Fortin qui nous sert d'interprète, qui est là aujourd'hui, qui va dire le prénom de la personne lorsque elle va interpréter. Et en même temps, Joël, si tu veux, toi comme interprète, tu n'auras qu'à dire Joël et ton deux scènes va valoir ce que ça va valoir. Ça fait combien de temps, messieurs, qu'on souhaite que la LSQ soit reconnue comme une langue officielle?
Darren Daz dit, en fait, ça fait depuis très, très, très longtemps. Je dirais que depuis que la communauté sourde existe, on veut faire reconnaître la langue des signes, qui était vraiment une valeur très, très, très importante pour nous. Donc, je pense que ça fait vraiment longtemps. Martin dit que si on regarde là, dans le monde entier, il y a plusieurs pays qui ont reconnu... 143 pays qui ont déjà reconnu cette langue des signes, alors que nous, au Canada, on travaille très fort pour la faire reconnaître. En 2018, puis je pense que là, il est temps de faire avancer les choses, là, comme M. Trudeau le disait.
Ouais.
Daz rajoute... Oui, je veux pas vous couper.
Non, allez-y.
Daz rajoute la langue des signes. Bon, souvent, on a l'impression que c'est une langue de bas niveau, c'est plus des gestes, un mime qui sert à communiquer, comme une espèce de mode de communication qui n'est pas officiel, alors que pour nous, la langue des signes, c'est une vraie langue, une langue à part entière, une langue naturelle qu'on utilise depuis des siècles et des siècles. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est vraiment... lorsque les sourds se rencontrent ensemble, ils discutent en langue des signes, la langue aussi a également évolué. Il y a des familles de mots, il y a l'ASL, il y a la LSQ. Donc, c'est très, quand même très proche, mais si on regarde en Angleterre, la British Sign Language, c'est plus éloigné, mais chaque pays a sa langue des signes et c'est vraiment naturel comme mode de communication. Alors, nous, les personnes sourdes, on veut la faire reconnaître puisque c'est notre besoin pour avoir accès justement à différents niveaux de la société. Ça va nous permettre d'avoir un accès égal.
Mais je disais,
en fait, un citoyen à part entière.
Je disais en boutade pour ouvrir l'émission, parce que bon, ça fait partie de ma personnalité de picosser un peu. Je disais, on a de la difficulté à avoir le français reconnu un peu partout au Canada alors que c'est une langue officielle. Est-ce qu'on veut vraiment se taper d'autres langues parlées par une si petite minorité? Qu'est-ce que ça offrirait aux personnes sourdes du Canada, cette reconnaissance-là?
Martin dit, en fait, comme avantage, c'est qu'on serait vraiment au même niveau qu'un tout autre citoyen. Mmh. Lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, ils auraient des options de langue. Par exemple, là, les personnes sourdes auraient l'option de prendre soit le mode oralisme ou la langue des signes. Daz dit, mais souvent, on va prendre ça comme une option, comme un dernier choix. Si, par exemple, ça ne fonctionne pas au niveau oral, si ça ne fonctionne pas avec l'implant, si ça ne fonctionne pas de cette façon-là, on y va avec la langue des signes. Alors que là, il y a un retard qui est accumulé. Je pense qu'il y a déjà un retard accumulé chez l'enfant. C'est déjà difficile à rattraper. C'est difficile ensuite de revenir au même niveau d'éducation. Donc, ça a des impacts directs sur la vie d'une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit la faire reconnaître, cette langue des signes, pour justement pour offrir le plus précocement possible toutes les possibilités.
Mais qu'est-ce que ça... Puis Maurice, on va laisser faire la toune, on a trop de fun ici. Là. Qu'est-ce que ça offrirait concrètement? Disons, pour vous deux, là, est-ce que ça veut dire que chaque émission de télé, il y aura des médaillons? Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un discours officiel, il y aura un interprète? J'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Daz dit, ben justement, comme là, pour les élections, je pense que c'est vraiment très important. On a un devoir de citoyen, donc on veut pouvoir suivre le débat des chefs. Donc, on a déjà là, travaillé très fort pour avoir accès à des interprètes. Ça a toujours été refusé. On nous dit que, bon, ça va déranger la population en général d'avoir
les
un médaillon.
Les débats n'étaient pas signés.
Non, il n'était pas signé. Donc, il y avait du sous-titrage, mais le sous-titrage, il y a du décalage, c'est pas parfait. Donc, il y a les personnes sourdes qui ont des difficultés aussi avec la langue française, tous selon l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, au niveau de l'accessibilité, on n'est pas au même niveau là, qu'un autre citoyen. Puis, c'est pas seulement pour les élections, mais par exemple... comme Martin me disait, au niveau des transports en commun, c'est difficile. Au niveau du métro, s'il y a une panne, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y en est. Tout se fait de façon vocale, orale, okay, dans le haut-parleur. Tout est vraiment là, audio-centriste. Donc, c'est vraiment un stress.
Mais là, on fait quoi,
stress,
là? Il n'y a pas un interprète qui va rentrer dans chaque wagon pour signer. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais par exemple, Martin dit, lorsqu'il y a eu la tornade à Gatineau, là, il y a une semaine, ça a été difficile pour les personnes sourdes qui demeuraient dans cette région-là parce qu'ils ont été aucunement informés. Ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc, s'il y avait une reconnaissance, il y aurait un interprète probablement là, qui aurait pu interpréter là, les mesures d'urgence à la télévision. Puis ça, c'est pas juste pour les ouragans. Aux États-Unis, comme Daz le mentionne, c'est déjà instauré. Il y a déjà, aussitôt qu'il y a des mesures d'urgence, des catastrophes, il y a déjà un interprète qui est à côté là, des discours, des gens qui font les discours.
Je veux dire, la sécurité au publique. Québec,
Oui, c'est ça. Ici, on n'a rien.
Ah, je comprends. Ça, c'est pour les cas extrêmes. Mais dans le quotidien, extrême mais important, là, j'en conviens, mais pour le quotidien, est-ce que il y aurait des implications? On essaie de voir là, bon, combien ça va coûter. Faut-il réouvrir la Constitution? T'sais, on essaie de... Parce qu'on on est...
Non,
bon, c'est un peu nono, mais on
ne
veut
non,
pas
non,
être
non,
trop dérangé.
Non, je pense que justement, il y a le projet de loi C-81 qui est au fédéral avec Canada Accessible. Je sais qu'en 2016, le ministre avait dit « Bon, on doit faire peut-être une reconnaissance de la langue des signes américaine et la LSQ. Mm-hmm. » Donc, ça, il y a eu une première lecture, mais il n'y a rien qui a eu lieu. C'est pour ça que nous, le 22 septembre, on a fait une marche pour dire « Yo, oublie-nous pas! Ouais. » c'est pas nécessaire de rouvrir la Constitution là, pour ça. Là.
OK. Avec moi, vous entendez la voix de Joël Fortin, qui est interprète, pour nous aider à communiquer avec Martin Boucher et Darren Daz Saunders. On parle de la reconnaissance des langues signées parlées au Canada comme langues officielles. Est-ce qu'il y aurait des coûts importants rattachés à ce changement? Est-ce qu'on a une idée de combien ça pourrait coûter?
Martin dit, je pense que lorsqu'on... Nous, on ne regarde pas le coût. Hein? Nous, on regarde... Je veux dire, on veut avoir une information complète.
Ouais.
Nous travaillons. Hein? Je pense que, bon, on veut avoir une bonne qualité de vie, on a des études, on paie nos impôts. Donc, je pense que c'est un cercle. Hein? Je pense que c'est pas parce qu'on est sûr qu'il y a un coût relié nécessairement à ça. Daz dit, si je peux me permettre de rajouter un commentaire, l'argent retourne à la société par la suite. Je pense que... Au Québec, là, on offre beaucoup de choses pour les personnes démunies, il y a beaucoup de programmes qui existent, mais nous, on peut justement contribuer à améliorer la société. Je pense qu'on peut apporter un apport là, significatif là, à la société. Donc, faut pas voir ça là, comme un coût vraiment là, relié.
Ouais. Je me tourne vers le doctorat en linguistique. Qu'est-ce qu'une langue, Daz, et quels sont les critères qui désignent, disons, que c'est une langue?
OK. En fait, il y a quelques unités là, linguistiques, qu'on peut... Chaque unité linguistique, on peut les rattracher ensemble, qui va faire créer des mots, des phrases, des concepts. Et bon, qui fait qu'on va exprimer une pensée. En langue des signes, il y a la configuration manuelle, il y a la localisation, il y a les mouvements. Bon, ça, c'est les trois aspects de base, trois unités de base. Là, okay. C'est sûr que je n'irai pas en détail. Et si on les raconte tous ensemble, ça crée une forme... et un sens, au même titre qu'une langue écrite. Donc, on peut avoir plusieurs signes et plusieurs sens, ça va créer un concept. Donc, par exemple, il va y avoir les gestes, mm-hmm. il va y avoir la langue des signes, et on essaie de trouver quelque chose d'uniforme pour créer un système de langue. Donc, parce que, bon, dans les gestes, ça peut être très varié. Et dans la langue des signes, par exemple, si je prends le mot « boire », on va prendre... Dans le verbe boire en langue des signes, c'est comme c'est comme si avec notre main on prenait un verre.
Ouais.
Okay? OK. Bon. Donc c'est iconique comme mot, mais c'est pas tous les signes qui sont iconiques. Si on regarde le mot toilette, c'est la lettre P par exemple qu'on met sur notre nez. Donc c'est aucune iconicité okay. avec le mot toilette.
D'ailleurs P, ça il y a même pas le mot P, la lettre P dans toilette. C'est vraiment particulier.
C'est ça, c'est une forme, c'est le signe.
C'est quoi, c'est ça
pas
pue?
Parce que...
Ben
non, c'est vraiment la forme. Ça a été créé comme par hasard. Okay. Bon, c'est hasard, peut-être que c'est la lettre P qui a été mm-hmm. utilisée. Donc, C'est vraiment... des fois, il y a, comme je vous dis, il y a des images qui vont nous donner le mot. Des fois, non. Et tout ça fait construire là, une langue.
Y a-t-il des accents? Exemple, bon, nous, les gens dans le lac Saint-Jean, puis en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et à Montréal, n'ont pas les mêmes accents. Est-ce qu'il y a des accents dans la LSQ?
Ah oui, absolument. Ah, oui, comme moi, Daz dit, je viens d'Angleterre. Hein? Oui. Donc, ma première langue, c'est la langue des signes, la British Sign Language. Quand j'ai commencé à apprendre la LSQ, j'avais un petit accent. Et quand j'apprends la SL, j'ai un accent également anglais.
Okay. Hein?
Donc, c'est ce qu'on me dit là, quand je vais signer en ASL.
Joël, j'ai envie, toi qui interprètes justement Daz et Martin, la différence, est-ce que ça se voit dans la gestuelle justement que Daz provient de la Grande-Bretagne et que Martin a peut-être vécu toute sa vie ici?
Personnellement, moi, je ne vois pas la différence.
Okay.
Non.
OK. Donc, c'est peut-être pas aussi évident, ou bien t'as vraiment bien appris ta LSQ, Daz. C'est peut-être ça qui est arrivé.
Je l'espère, en tout cas.
Ouais.
Mais chose est sûre que je suis vraiment intéressée. Là, chaque personne aussi a son style hein, de façon de communiquer. C'est comme les entendants. Lorsqu'ils parlent, ils ont des accents, ils ont des façons de parler. Il y en a qui vont parler vite, parler moins vite, qui vont plus mâcher leurs mots, si je peux dire. C'est la même chose en langue des signes.
Est-ce qu'on s'entend, par contre? Parce que je sais que dans la région de Québec, il y a une autre forme de langue des signes francophone qui est utilisée. Donc, est-ce qu'il y a vraiment consensus dans la communauté sourde?
Martin dit, je sais que dans l'est du Québec, ils vont plus être structurés, ils vont plus suivre la grammaire du français, la structure. Alors que la LSQ va avoir vraiment sa syntaxe et sa structure, va avoir une différence, je dirais, entre l'est et l'ouest du Québec, effectivement.
Ouais. Et en plus, nous, on va avoir des utilisateurs de l'ASL dans la même ville. Les anglophones vont parler l'ASL, je présume?
Oui, tout à fait, l'ASL, mais c'est vraiment particulier parce que c'est un ASL montréalais. Parce que, bon, la langue de contact ici, bon, il y a la langue des signes, la langue des signes québécoise qui est très majoritaire ici, et il y a les ASL qui vont être influencés par la communauté sourde anglophone qui va être influencée par la LSQ. Alors, s'ils se retrouvent dans un milieu anglophone, ASL, il va avoir un accent, si je peux dire, montréalais.
Ouais.
Martin dit l'ASL, il y a l'ASL canadien, mais il y a l'ASL américain.
Ah oui.
Il y a des accents, là, justement.
Il y a la Canadian American Sign Language. C'est un peu paradoxal.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Bon, la langue évolue. On a déjà établi ça. Je suis curieux. Donnez-moi un exemple de comment le mot courriel s'est intégré dans la LSQ. Et tiens, est-ce que les sourds chill ou ils relaxent encore?
Martin dit... dans les années 90, il y a justement les nouvelles technologies qui sont arrivées. Il y avait le email hein, qu'on utilisait, puis là, ensuite le mot courriel. Nous, on disait « ordinateur, envoyer une lettre ». C'est ce qu'on disait au tout début.
Okay.
Maintenant, on a vraiment changé. On a créé un mot, puis justement, le signe, c'est la lettre C. Et avec l'autre main, c'est comme si on envoyait un document avec un mouvement là, latéral, si je peux dire, là, entre la lettre C.
Mais comme nous, on a l'Office de la langue française, avez-vous un office de la LSQ? Qui détermine ça?
C'est la communauté sourde, Martin dit. En fait, la communication, c'est lorsqu'il y a des mots courants, on va utiliser un mot qui va être confortable, puis ça va donner un automatisme que les personnes sourdes vont utiliser. Justement, comme lorsqu'on fait les vidéos sur Facebook. Donc, quand on va être à l'aise avec cette configuration-là, donc ça va s'utiliser puis ça va se répandre. Daz dit, il peut y avoir 2-3 signes qui sont utilisés, par exemple pour le même mot, mais une fois que le signe est vraiment... on prend le signe qui est le plus utilisé par la communauté sourde, puis c'est lui qui va devenir comme officiel. C'est comme collectivement, si je peux dire.
Est-ce que des signes différents pour le même mot, on appelle ça des synonymes également?
Oh, Daz dit c'est une bonne question, mais oui!
Donc, ce serait des synonymes, mais de signes.
J'essaie de voir...
Des synonymes. Et comment tu vas traduire ça, synonyme?
Martin, ça dépend vraiment de la phrase. Ouais. Hein? Par exemple... Il peut se signer différemment selon la phrase, selon le contexte. J'essaie de trouver un exemple là, pour les néophytes, si je peux dire, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Là, c'est difficile. Là, ouais.
Est-ce que les parents entendants acceptent bien la LSQ ou on pousse encore très fort l'implant cochléaire?
Martin, dis-moi, j'ai grandi avec un implant cochléaire. Okay. Lorsque je suis née, j'ai appris la langue des signes. Mes parents, bon, ils ne savaient pas trop où m'envoyer, si je peux dire, m'envoyaient dans une école de sourds. J'avais un implant cochléaire. J'ai pratiqué le mode oraliste pendant 7 ans. Donc, j'ai appris à parler. Puis, je n'ai pas réussi à 100% à parler là, comme quelqu'un là, qui entend. Mmh. Donc, on encourage également la langue des signes parce qu'un enfant qui ne parle pas encore va communiquer aisément avec la langue des signes. Par exemple, pour dire le mot « lait », il ne configurera peut-être pas de la bonne façon, mais on va très bien comprendre qu'il veut dire.
Lait L-A-I-D ou lait L-A-I-T?
Les LIT.
OK.
Ou par exemple, le mot encore, mais l'enfant va être plus facilement. C'est facile de communiquer pour un petit bébé en langue des signes avec son corps plutôt que oralement. Puis une fois que son cerveau a évolué, lui, il va choisir est-ce qu'il va préférer le. Il n'est jamais trop tard.
Mais
je repose
ma question. En général, les parents, est-ce qu'ils sont à l'aise? Parce que je sais qu'il y a eu une époque où qu'on essayait de travailler beaucoup plus l'oralisme, le langage, le labial plutôt que le signé. Est-ce que c'est encore comme ça?
Daz dit oui. Je dis pas qu'on pousse très fort, mais le système est fait comme ça. Lorsque, par exemple, un petit bébé naît sourd, souvent la médecine, ils voient le problème. Hein, ils veulent régler le problème pour eux. Donc, ils vont les référer dans les différents services. On peut offrir la langue des signes, mais les parents sont tellement sous le choc lorsqu'ils apprennent, comme vous dites, là, c'est une perception de la langue, donc c'est pas encore là, au même niveau que la langue française. Donc souvent, on va offrir l'implant cochléaire, puis pour eux, c'est comme si on réparait le problème, c'était une solution. Mais comme Martin vient de le mentionner, ça règle pas tout, il est encore sourd, là, il devient pas une personne qui entend. Donc je pense vraiment que c'est important de travailler avec les enfants sourds, puis de leur donner tous les choix possibles et toutes les options possibles. Il n'est jamais trop tard. Puis après, l'enfant, s'il préfère communiquer de façon orale ou en langue des signes, il y aura tous les outils pour pouvoir... Il ne faut pas en faire un à la fois. Puis on se rend compte qu'à rendu à 10 ans, l'enfant, bon, ne réussit pas bien d'une telle façon, de ce mode-là, puis d'y aller, de recommencer dans un autre mode. Là, c'est du temps perdu, puis ça crée des retards.
En conversation avec Martin Boucher et Daz... J'oublie ton nom de famille.
Sander.
Désolé. Et c'est Joël Fortin qui nous sert d'interprète pour parler de la reconnaissance de la LSQ, de la SL également dans le reste du Canada. Est-ce que lorsqu'on regarde, parce que bon, vous parlez de il est encore sourd et tout, même s'il utilise un implant, le petit bonhomme, la petite bonne femme, mais en même temps, j'ai cru comprendre que les utilisateurs de langues signées ont peut-être un petit peu moins de facilité au niveau de l'écrit, au niveau de la lecture, parce que c'est pas la même construction. Est-ce que c'est un désavantage?
C'est une très bonne question. Justement, je pense que si on a une langue solide, une langue de base solide, comme moi, ma première langue, c'est une langue des signes. Mes parents sont sourds. Ouais, ouais. Donc, la période critique, c'est vraiment de construire une langue. Et ensuite, on peut apprendre d'autres langues facilement. On peut construire. Par exemple, moi, la LSQ, c'est ma quatrième langue. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on a une langue solide, une langue primaire solide, maternelle, on peut avoir accès à d'autres langues, que ce soit orale ou que ce soit en langue des signes. Il y a un impact, c'est sûr qu'il peut avoir un impact par après pour la lecture, l'écriture. Ouais. S'il a accès dès le début, dès sa naissance, s'il est sourd, puis qu'il a un accès à la langue des signes, déjà, on est en train de construire quelque chose de solide pour ses apprentissages futurs. Parce que lire sur les lèvres, pour être vraiment compétent, si tu es vraiment compétent, tu peux avoir seulement 25% du message, le reste des déductions. Donc, à 2 ans, comment un enfant peut faire de la déduction? Donc, c'est impossible. C'est impossible.
Alors, voilà comment, une portion de cet entretien que j'ai eu l'automne dernier avec Darren Daz Saunders, et Martin Boucher. Merci également à Joël Fortin. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et Dimestre Christiane Campagna, elle qui est également recherchiste. Vous dire également, tiens, si vous êtes là, c'est possiblement que vous êtes abonné au balado. Il y a eu un petit pépin la semaine dernière, c'est normal. Arrêtez de chercher. Vous ne le trouverez pas, celui du dernier lundi de mai. Mais on espère que tout ça est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, si vous m'entendez, il y a des bonnes chances que c'est parce que vous l'avez reçu. À lundi prochain! Ciao!